comment vous avez vécu ces 6 semaines justement à Matane de crise? Je sais que le Bas-Saint-Laurent est une des régions les moins touchées.
Ben, nous, on est doublement confinés, là. Il y a une barrière à la Pocatière et une autre du côté de Les Méchins, donc entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Depuis le début de la crise, ma mémoire est bonne, 34 cas confirmés, la majorité sont rétablis, un décès, et puis depuis 17-18 jours, c'est stable, donc il n'y a pas de nouveaux cas qui ont été recensés sur le territoire. Fait qu'on peut dire que la situation est très paisible dans nos chaumières.
Alors, ça a bousculé vos manières de travailler. Le CEDRIN, c'est un centre de recherche appliquée qui se spécialise dans l'imagerie numérique et l'intelligence artificielle à la fine pointe de la technologie. Comment vous vous êtes organisé?
Ben, la beauté de la chose, c'est que comme le CEDRIN est à Matane, on avait déjà une réflexion de survie de centre. Donc, ce qui nous a amené à développer une stratégie sur plusieurs villes. Donc, on a des gens qui travaillent à Québec, Montréal et même présentement un stagiaire en France. Et ça dure depuis le début des travaux en 2012. Donc, quand la COVID est arrivée, on avait déjà les outils de télétravail en place. On avait déjà la culture organisationnelle était bien établie. Donc, ça a été un travail d'équiper les gens bien comme il faut à la maison, là, ceux qui avaient l'habitude de venir au bureau à Matane. Mais sinon, pour le reste, ça s'est fait assez rapidement là, dans les premiers jours suivant le confinement.
Donc, réunion virtuelle, rendez-vous virtuel.
On est tous bien équipés. C'est vraiment la cellule de Matane là, qui a vécu le plus d'adaptation parce que les gens qui étaient à Québec et Montréal étaient déjà en mode télétravail.
Justement, en parlant d'enjeux d'infrastructure, je sais que vous travaillez énormément avec les secteurs du jeu vidéo. Ça a été un enjeu majeur pour le secteur des jeux vidéo qui est terriblement touché par la crise. En fait, ils ont dû vraiment déménager pour se retrouver en télétravail. Leur infrastructure, les données, etc., ça a été un casse-tête assez formidable.
Ouais, puis c'est le petit côté qui nous ressemble aussi là, c'est vraiment l'utilisation des parcs informatiques, l'utilisation des logiciels à distance, logiciels spécialisés ou des équipements spécialisés aussi. Puis pour les grandes entreprises de divertissement, ben c'est souvent des équipements qui sont localisés à l'intérieur des entreprises, donc difficile d'avoir accès de l'extérieur, fait que ça demande des bons aménagements. Mais ce que j'en ai entendu parler là dans les dernières semaines, c'est que tout le monde a réussi assez bien à s'en sortir, tirer son épingle du jeu. Puis au-delà de l'adaptation à la crise, ben le domaine du jeu en particulier va assez bien là, parce que les gens sont confinés à la maison. Puis les jeux se vendent. Là, il y a une belle augmentation au niveau des revenus pour ceux qui sont en production présentement, là, qui ont des bons titres de jeux. Donc, c'est intéressant pour eux. Il y a une opportunité, mais c'est sûr qu'au niveau du travail, c'est pas évident au quotidien.
Ouais, on imagine les 3000 salariés d'Ubisoft, en fait, déménager les infrastructures dans leur appartement. Enfin, ça a dû être dingue.
Oui, ça a dû être un sacré casse-tête. Là. Nous, on n'est pas 3500, puis ça a été tortueux. Là. Je peux imaginer que l'équipe d'Ubisoft Montréal ont eu tout un défi. Là.
Comment on met l'intelligence numérique au service du citoyen en région par temps de crise? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des difficultés? Comment ça se passe?
Ça se passe, je vous dirais, c'est un peu à l'image de ce qu'on vit normalement, mais c'est peut-être exacerbé dans le sens où c'est beaucoup plus facile pour un centre numérique ou de valorisation de données de travailler en ville, donc Québec et Montréal. Il y a des plus grandes entreprises, il y a plus d'opportunités. Quand on essaie, comme le CEDRIN, de participer au développement régional, donc de le faire de façon active puis de vraiment l'avoir dans sa vision, ben ça demeure un défi de tous les instants, là, avec ou sans la COVID. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est assez difficile là, présentement parce qu'on est dans un tissu économique de petites, micro et petites entreprises. Puis il y a des gens qui en souffrent. Fait que malheureusement, je pense que l'innovation, recherche-innovation, c'est pas leur premier enjeu présentement, plus que de garder leur entreprise ouverte. Puis on le voit déjà après 6 semaines que ça a des impacts majeurs au niveau de l'économie. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Là,
juste
parce que ça a un bon impact. Fait que nous, on n'est pas, je dirais, les téléphones ne sonnent pas pour faire de la R&D là, en région présentement. C'est pas ça le sujet de l'heure. Là.
Justement, le Premier ministre va annoncer une relance économique tout à l'heure. Est-ce que la relance va passer par une transformation numérique exacerbée? Vous attendez quoi de cette relance?
C'est une excellente question. Encore une fois, je pense que la transformation numérique faisait partie des défis de société. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point peut-être que la survie de certaines entreprises passe par la transformation numérique. On le voit, on le vit à tout le passage au e-commerce, là, donc commerce en ligne des dernières semaines. Le transport, l'opportunité du transport des marchandises, au lieu que les gens aillent au magasin, on va amener les produits vers eux. Toute cette opportunité-là va profondément changer l'économie. En région, ben, ce type de projet-là devra être repensé en fonction des régions, pas nécessairement en fonction des modèles qu'on va voir développer en ville, parce que le contexte est vraiment différent. Puis ça prend du monde, ça prend pas mal de monde en région pour commencer à réfléchir à une transformation numérique décentralisée, puis qui va se connecter aussi aux grandes villes. Parce que c'est peut-être deux réalités, mais il va falloir à travers la transformation qu'il y ait une liaison entre les deux. Je pense que l'opportunité est là.
Justement, cette littératie numérique dont on parle beaucoup, beaucoup, comment on l'accélère en région?
C'est pas évident. ça prend des moyens. Je pense que s'il y a des annonces à faire, c'est d'aider les petits commerçants, les petites entreprises à se donner minimalement la capacité d'avoir un niveau de littératie qui va leur permettre après de pousser la machine un peu plus. Mais c'est d'avoir des infrastructures numériques de base, là, c'est-à-dire des sites web actualisés, des stratégies de marketing numérique, exemple. Ça, c'est des éléments de base. Au niveau des outils de communication aussi à la clientèle, donc une meilleure connaissance de ces outils-là, ça peut se déployer sur tout le territoire québécois. Ça va prendre des investissements, puis ça va surtout prendre une vision large de ça, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui se passe en région, c'est différent de ce qui va se passer en ville, par exemple, dû à la réalité régionale.
On l'a vu, en fait, un peu partout dans le monde, des technologies qui ont été de plus en plus utilisées pour les musées en plein confinement, justement, des musées virtuels. Quel est votre sentiment là-dessus?
Ben, c'est des gros investissements. C'est les grands musées qui peuvent... je trouve ça génial, là, quand un grand musée peut investir dans la numérisation des collections. On a un patrimoine fantastique, puis j'en parlais ce matin avec des collaborateurs, on a un patrimoine fantastique au Québec à tous les niveaux. Le défi, c'est de le financer, cette numérisation-là, puis d'après ça, la mettre disponible, donc la rendre découvrable à la population. Il y a des chantiers qui sont déjà en cours au niveau de la culture. Ça va prendre encore une fois, puis je pense que la culture a été une des premières frappées par la crise, là. Ça va prendre une réflexion aussi sur nos orientations en termes de culture québécoise, parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a tellement d'opportunités, il y a des idées qui émergent depuis que je travaille au Cédrin, là, donc ça fait 8 ans que j'entends parler des possibles de la culture, mais on se frappe toujours à la question du financement. Il faudra voir ce qui reste après la crise aussi pour financer ces opportunités-là. Parce qu'on a des belles perles de musées en région. On en a plein autour de chez nous. Puis pour avoir travaillé avec eux à numériser certaines expériences ou certains artefacts ou certaines collections, le défi demeure toujours le même, trouver des ressources, trouver de l'argent pour réussir à mettre les idées en pratique, là.
Dans quel projet le Cédrin est impliqué? Je sais qu'il y a de belles cellules d'innovation en Gaspésie pour la culture et le tourisme dont on parlait, la culture qui va être véritablement touchée en fait par cette crise.
Historiquement, on a travaillé avec les attractions incontournables de la Gaspésie. Donc ça, c'est 3 grandes attractions qui nous permettent de faire le typique tour de la Gaspésie. Ce sont les Jardins de Métis. Il y a une belle maison de type éco-construction qui a été faite là. Nous, on a ajouté une expérience sur la matériothèque. Il y a aussi Explore-en-mer, qui est un musée à la fois touristique et culturel au niveau des sciences de la mer à Saint-Anne-des-Monts, puis le bioparc de la Gaspésie du côté de Bonaventure. On a aussi travaillé avec Miguacha, qui est un centre au niveau de la paléontologie, donc des espèces de 450 millions d'années, les espèces, si je me souviens bien, du Dévonien, nos premiers, nos plus anciens ancêtres. C'est des musées qui sont fantastiques à découvrir, mais qui sont nos trésors cachés, là. Et il y aura d'autres éventuellement projets comme ça qui vont arriver. En particulier, un projet qu'on travaille présentement avec le parc du Bic au niveau de la mer numérique.
Ah, sublime, le parc du Bic, sublime!
Oui, ouais. Oui, oui, oui. On va essayer de mettre des éléments que vous ne voyez pas en valeur. Ça va frapper l'imaginaire. Puis le numérique évolue tellement rapidement que ça nous donne des outils qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Puis aujourd'hui, des idées qu'on ne pouvait pas mettre en pratique il y a 5 ans, on va les mettre en pratique. C'est comme les épisodes de Star Wars qu'on a attendu si longtemps, là. C'est un peu le même principe. Quand on est capable de faire les choses parce que les technologies sont maintenant accessibles, ben là, on les entre dans les expériences culturelles, touristiques, scientifiques. Là, ça devient les possibles sont devant nous. Tout ce que ça nous prend, c'est des ressources pour y arriver, là.